Le journal présenté par Lise Verbeek.
Bonsoir. Les premiers pas à l'étranger d'Emmanuel Macron. Il a passé toute la journée au Mali, principal théâtre des interventions militaires françaises. Il s'y est posé en chef des armées, exigeant compte rendu de sa visite avec Ludovic Piétenu. La Suède abandonne les poursuites judiciaires pour viol contre Julian Assange. Un soulagement pour le fondateur du Wikileaks, mais il reste dans une situation inextricable. Qui sera le nouveau président iranien? Les électeurs ont eu le choix entre le conservateur Raisi ou le sortant et modéré Rouhani. On devrait connaître les résultats dans le week-end. L'enquête, comme tous les vendredis, ce soir, on parlera avec Laetitia Saavedra de certaines annonces de Pôle emploi mensongères, voire illégales. En costume bleu nuit parmi les treillis militaires, Emmanuel Macron a passé toute la journée au Mali sur la base de Gao dans le nord du pays. Pour sa première visite internationale hors Europe, il a choisi de rendre hommage aux militaires engagés dans l'opération Barkhane au Sahel. Il s'y est posé en chef des armées, déterminé et proche des soldats, Ludovic Piétenu.
Plus de 40 degrés à l'ombre, souvent beaucoup de sable qui vole, cette terre rouge qui se décolle. Et le danger à chaque instant présent pour des soldats français qui couvrent 5 pays, un territoire aussi vaste que l'Europe. Emmanuel Macron est venu se rendre compte par lui-même de la dureté de la mission Barkhane.
Aujourd'hui, nous sommes face à de nouveaux types de guerres où l'ennemi est beaucoup plus mobile, parfois mieux équipé et où la nature des missions est encore plus dangereuse. Et ça m'a frappé parce que je suis responsable de cela. Et parce que je suis responsable non seulement de notre sécurité collective, mais de leur vie.
Pas de rupture politique ou diplomatique, mais de la continuité et un appel aux Européens pour qu'ils contribuent davantage encore à cette mission.
Pour ce qui est de l'opération Barkhane, elle ne s'arrêtera que le jour où il n'y aura plus de terrorisme islamiste dans la région et où la souveraineté pleine et entière des États du Sahel sera restaurée. Pas avant.
Pour cela, dit-il, il faut gagner une guerre, mais il faut aussi gagner la paix. Il faut aussi un effort des parties en présence.
Ce que j'ai vu aujourd'hui me conforte dans ma conviction qu'il est urgent que les acteurs politiques maliens soient tous au rendez-vous et mettent en œuvre cet esprit de réconciliation. Ce sont les accords d'Alger pour lesquels l'action à conduire doit s'accélérer et toutes les responsabilités doivent être prises.
Première rencontre bilatérale et première insistance du président français à son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta, mais aussi indirectement aux 4 autres pays du G5 Sahel qu'il a promis d'honorer de sa visite lors de leur prochaine réunion.
Reportage de Ludovic Piétenu à Gao pour France Culture. Emmanuel Macron au Mali, donc en stratège militaire, tandis que les dés sont jetés pour sa stratégie politique en France et la prochaine échéance le 18 juin. Les candidatures pour les législatives sont closes. Des législatives qui seront inédites. Plus d'un tiers des députés sortants ne se représentent pas. Alors quels seront les rapports de force entre les partis? On fait le point avec Antoine Marette.
La grande nouveauté dans ces législatives, c'est bien sûr la présence d'En Marche. Le nouveau parti présente 526 candidats. Plus de la moitié sont novices en politique. 80 ont été proposés par le Modem. 526 candidats sur 577 circonscriptions. Cela signifie que le parti d'Emmanuel Macron n'est pas présent partout. Dans certaines circonscriptions, ce sont des candidats sous l'étiquette majorité présidentielle qui se présentent. C'est le cas par exemple du ministre de l'économie Bruno Le Maire dans l'Eure. Il était initialement investi par LR, mais il fait finalement face à une candidate des Républicains. Autre exemple, Manuel Valls, lui aussi se présente sous l'étiquette majorité présidentielle dans l'Essonne, mais face à lui, aucun adversaire socialiste. Dans d'autres circonscriptions, En Marche a jugé des candidats LR constructifs par rapport à Emmanuel Macron et a donc décidé de ne présenter personne face à eux. Sont concernés Thierry Solaire dans les Hauts-de-Seine, Franck Riester en Seine-et-Marne et Hervé Guémard en Savoie. En ce qui concerne la France insoumise, la mer des batailles va se jouer dans les Bouches-du-Rhône. Le parachuté Jean-Luc Mélenchon va y affronter le socialiste Patrick Mennucci. Au FN, Marine Le Pen a finalement décidé d'être candidate. Elle a choisi le Pas-de-Calais où elle a de très grandes chances d'être élue.
Et 6 ministres au total donc se présentent aux législatives. S'ils perdent l'élection, ils devront quitter le gouvernement. En attendant cette échéance, le gouvernement planche donc sur ses premiers dossiers. Le directeur du cabinet du ministre de l'économie a reçu cet après-midi les représentants syndicaux de l'équipementier GMES de la Souterraine. Menacés de liquidation judiciaire, les salariés attendent l'audience du tribunal de commerce de Poitiers mardi. Bruno Le Maire a promis de négocier des commandes pour l'usine. Reportage d'Annabelle Grelier à Bercy.
Après 2 heures de discussion et une visite éclair du nouveau ministre de l'économie, les syndicats sont ressortis quelque peu rassurés. Yann Ogra, secrétaire du CE de GMES.
Je pense qu'on a été écoutés. Aujourd'hui, il y a un nouveau président, il s'appelle Monsieur Macron. On va voir s'il a l'intention de donner les pleins pouvoirs à la finance et aux grands patrons, ou s'il a réellement l'intention de laisser un petit peu de l'industrie dans les petits territoires. Parce que nous, on en a bien besoin. Je pense que s'il veut nous aider, il peut le faire. Il faut qu'il le fasse maintenant rapidement.
Bruno Le Maire s'est engagé à contacter ce week-end les deux PDG de PSA et Renault, leur demandant de déployer tous les efforts nécessaires pour garantir l'accroissement des commandes. Vincent Labrousse, délégué CGT, ne compte pas pour autant baisser la pression.
On est dans un état d'esprit de trouver des solutions, un état d'esprit constructif comme on l'a toujours été. Par contre, il ne faut pas nous prendre pour des lapins de 6 semaines. Il ne faut pas nous amener dans le mur, nous raconter des cracks pour finalement fermer la boîte.
Bercy semble tout de même entendre qu'un plan de licenciement sera inévitable. Les syndicats, de leur côté, disent ne pas accepter autre chose que le départ à la retraite anticipée d'une vingtaine de salariés. Denis Bréant, de la Fédération de la Métallurgie de la CGT.
Quand PSA n'était pas bien, l'État a joué le jeu pour sauver PSA. Aujourd'hui, ces deux groupes ont des résultats qui sont très positifs, bénéficient des allègements Fillon, du CICE, du crédit d'impôt recherche, et on leur demande aucune contrepartie, et ça ne peut plus durer.
Deux repreneurs seraient sur les rangs, GMD et Magnéto. Les syndicats réclameront mardi devant le tribunal de commerce de Poitiers le prolongement de la période d'observation, le temps de négocier avec les constructeurs automobiles clients et les repreneurs.
Je n'oublie pas et je ne pardonne pas les mots de Julian Assange après la décision du parquet de Suède de classer sans suite l'affaire pour viol qui le concerne. 7 ans que le combat judiciaire dure. Pour autant, tout n'est pas fini pour le fondateur de Wikileaks. Il a donné une conférence de presse dans l'ambassade d'Équateur à Londres, là où il est réfugié depuis 2012, Marina Daras.
C'est un Julian Assange très ému qui a pris la parole devant une foule de journalistes. Aujourd'hui, il fête une victoire, mais condamne une terrible injustice sociale.
C'était une importante victoire aujourd'hui, mais il y a encore du chemin à faire. La vraie guerre ne fait que commencer, puisque le Royaume-Uni a annoncé son intention de procéder à mon arrestation. Ce n'est pas acceptable que le Royaume-Uni refuse de confirmer si oui ou non il a reçu une demande d'extradition de la part des États-Unis. Mais en fait, il ne faut pas oublier qu'il y a eu une plus grande victoire encore cette semaine, une très importante victoire, quelque chose d'essentiel, et c'est la libération de Chelsea Manning après 7 ans de détention dans une prison militaire.
Julian Assange, qui pour l'instant ne peut toujours pas sortir de l'ambassade, il a tenu à remercier le peuple d'Équateur et son système d'asile politique qui lui évite l'extradition vers les États-Unis depuis maintenant 5 ans.
Au Brésil, un témoignage accable un peu plus Michel Temer, le président. La Cour suprême brésilienne a dévoilé ce témoignage selon lequel il aurait reçu 4 millions d'euros de pots de vin en 2014 de la part de dirigeants d'une entreprise GBS, le géant de l'alimentaire dans le pays. À cela s'ajoute une autre accusation, celle du procureur général pour qui Michel Temer s'est rendu coupable d'obstruction à la justice. Il aurait tenté d'empêcher l'avancée de l'enquête qui a révélé le scandale de corruption Petrobras, celui-là même qui a fait tomber la présidente Dilma Rousseff il y a un an. L'affluence a été telle dans les bureaux de vote iraniens que leur fermeture a dû être retardée de plusieurs heures. L'Iran a voté pour élire son nouveau président. Les électeurs avaient le choix entre le conservateur Raisi et le président sortant modéré Rouhani. Il y a 4 ans, Rouhani avait été élu dès le premier tour. Cette fois-ci, Élise Delève, le scrutin s'annonce serré.
Quand on demande ce qui leur déplaît chez Hassan Rouhani, ces femmes portant le tchador s'emportent.
Rouhani donne des libertés sans limite. Nous sommes musulmans et nous n'aimons pas ça. Nous voulons une liberté encadrée. Avec Rouhani, il y a de la corruption, du chômage et il ne fait pas attention à la volonté du peuple.
Ces femmes disent que les années Rouhani ont été difficiles. L'une d'entre elles a 3 enfants, ils sont tous au chômage. Le manque de travail est un gros problème en Iran. 16% de la population n'a pas d'emploi et cela monte jusqu'à 30% chez les jeunes. L'économie était au centre de la campagne présidentielle. Amir, enseignant, sait que le bilan de Rouhani est mitigé, mais il va voter pour lui sans hésiter.
La situation s'est améliorée et la croissance est repartie. Les prix se sont stabilisés grâce au contrôle de l'inflation. Le futur semblera dur.
4 ans de plus, c'est ce que demandent les électeurs de Rouhani pour continuer à ouvrir le pays. Les résultats de l'élection seront connus dans le week-end.
Reportage d'Élise Delève à Téhéran pour France Culture. Retour en France avec notre enquête du vendredi. On épluche ce soir les annonces de Pôle emploi, les annonces douteuses. Bonsoir Laetitia Saavedra.
Bonsoir Lise.
Une offre d'emploi sur deux de Pôle emploi serait mensongère ou illégale. C'est ce qui ressort d'une enquête récente de la CGT portant sur 1300 annonces. En fouillant, Laetitia, vous avez découvert des annonces assez étonnantes.
Oui, comme cette annonce de masseuse nudiste. C'est Nathalie Tissot, une journaliste pigiste du site d'information Le Lanceur, qui l'a repérée sur le site de Pôle emploi.
J'ai tapé masseur sur le site Pôle emploi et là je suis tombée sur une annonce très particulière, masseuse naturiste à domicile. J'ai décidé de passer un coup de fil au numéro qui était indiqué dans l'annonce et je suis tombée sur un homme. Et quand j'ai demandé ce que ça voulait dire masseuse naturiste, il m'a bien expliqué. Vous allez chez un client, le client est nu, vous êtes nu également. Vous réalisez des massages tantriques, c'est-à-dire des massages sur tout le corps.
Bah alors je vous rassure, des annonces comme celle-ci, c'est plutôt très rare sur pôle-emploi.fr. Les annonces épinglées par l'enquête de la CGT sont-elles d'un tout autre type ? Par exemple, elles ne respectent pas le code du travail ou bien mentent sur la durée du contrat. Pour le vérifier, je suis allée à Lorient rencontrer Vladimir Bizet-Séphanie, l'agent Pôle emploi du Morbihan, qui a réalisé l'enquête en question. Ensemble, nous avons fait un test grandeur nature et voilà entre autres ce qu'on a trouvé.
Première offre, on a la formule très fleurie, mission longue durée. Donc c'est marqué travail temporaire de 12 mois. Moi, je mets ma main au feu que le contrat initial n'est pas un contrat de 12 mois. Donc on va vérifier.
Bonjour.
Oui, bonjour. Je vous appelle pour une offre de technicien poseur. Donc vous avez indiqué contrat de 12 mois. Donc je vais être bien sûr que c'est bien un contrat de 12 mois.
Ouais, donc c'est bien le cas.
Vous ne faites pas tout de suite un contrat de 12 mois ?
Non.
D'accord. Donc c'est un contrat d'une semaine pour démarrer ?
Ça sera sûrement plus au mois.
D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée.
Au revoir.
Donc voilà, ça c'est vraiment la démonstration. Notre interlocuteur nous dit si, c'est bien un contrat longue durée. Et quand on insiste un peu, c'est absolument pas un contrat de 12 mois.
Alors ce conseiller a aussi trouvé d'autres offres farfelues. Par exemple, un emploi d'auxiliaire de vie qui est en fait un poste de concessionnaire de piscine. Ou bien des offres qui n'existent pas.
Alors on comprend, Laetitia, que ce soit un problème, mais des annonces mensongères, il y en a toujours eu, non ?
Oui, mais le phénomène a vraiment explosé en 2013. C'est à cette date que Pôle emploi a ouvert sa plateforme à une centaine de sites privés, comme par exemple Météo Job. Le problème, c'est que parmi tous ces sites, certains ne sont pas rigoureux sur la qualité des annonces. D'autres agrègent eux-mêmes d'autres annonces. On est donc loin de la validation manuelle par un agent de Pôle emploi.
Alors que répond Pôle emploi.
D'abord, la direction conteste les chiffres de la CGT et puis elle explique aussi qu'il y a bien un contrôle sur ces annonces et que ce contrôle, il est assuré par un algorithme. Un algorithme, c'est un outil informatique censé repérer les offres douteuses. Catherine Poux est la directrice des services aux entreprises à Pôle emploi.
Dès lors où une offre paraît suspecte, cette offre est rejetée et donc aujourd'hui nous rejetons en moyenne 40% des offres adressées par les partenaires. Nous avons assez récemment d'ailleurs été amenés à arrêter la diffusion d'offres de 3 partenaires.
Et pourtant, malgré ce dispositif de contrôle, il resterait encore une annonce sur deux mensongères.
Oui, parce qu'un algorithme, eh bien, ça a des failles. C'est ce que nous explique Olivier Herched. Il est enseignant en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Nantes.
Un algorithme, par défaut, il est assez idiot. C'est-à-dire il applique bêtement une chaîne d'instructions qu'on lui a donnée. Si une offre d'emploi satisfait à 2-3 critères, c'est-à-dire qu'il y a bien une entreprise demandeuse, il y a bien une indication du salaire, l'algorithme, lui, peut considérer que c'est une offre d'emploi valide parce que sur 6 critères, il y en a 3 qui sont respectés.
Le problème de la qualité des offres se pose d'autant plus qu'on le sait, Emmanuel Macron envisage de suspendre les allocations chômage après 2 refus d'offres acceptables. Que se passera-t-il si l'une est mensongère ? À Pôle emploi, on se veut rassurant. La direction nous a affirmé que seules les offres proposées et validées par un agent seront concernées, pas celles provenant de sites privés.
Merci Laetitia Saavedra. Votre enquête est à retrouver sur notre site franceculture.fr. Il était l'un des photoreporters de guerre les plus respectés. Stanley Green est mort aujourd'hui à Paris à l'âge de 68 ans. Cet ancien militant des Black Panthers a pris ses premières photos d'actualité lors de la chute du mur de Berlin en 89. Puis pendant 10 ans, il s'est rendu illégalement en Tchétchénie. Stanley Green a également travaillé en Afghanistan, au Darfour, au Rwanda ou encore en Irak. Il a été 5 fois lauréat du prix World Press Photo. Le temps pour demain samedi, du soleil presque partout avec quelques nuages sur la pointe bretonne. Le matin, il fera entre 5 et 15 degrés. L'après-midi, entre 15 et 24 degrés. C'est la fin de ce journal préparé avec François-Charles Domergue.